Alors bonjour à tous, à tous ceux que je n'ai pas vus encore ce matin, mais grâce à Docel, on s'est salués presque tous les uns les autres, alors c'est super. Et donc comme le titre l'indique, je trouve même que le titre qu'on a choisi avec les anciens n'est pas très facile à expliquer, mais en tout cas, c'est vraiment continuer cette série sur la parole, que nous puissions vraiment tous nous tourner vers la parole et comprendre toute la plénitude, la grandeur, tout ce qui est extraordinaire dans le fait de se soumettre à cette parole. Donc pour moi aujourd'hui, c'est de se rappeler que la parole est présente partout dans la communauté, pas seulement le dimanche matin quand on écoute la prédication, mais ça revêt différentes facettes. Alors, 3 novembre 1990, la sirène hurlait dans la nuit froide. Là-bas, dans la campagne, une ferme brûlait. Vite, on avait détaché les vaches dans l'étable, mais prise de panique, elles refusaient de sortir. Enfin dehors, elles fuyaient comme des folles, sans savoir où elles allaient. Les habitants de la ferme, dont une grand-mère très âgée, regardaient impuissants brûler les biens qu'ils avaient amassés avec tant de peine durant bien des années. Le lendemain, on remua les cendres encore fumantes et sous une cloison effondrée, on trouva la grosse Bible de la grand-mère. Les flammes avaient léché la reliure, mais aucune page n'avait été brûlée. Lorsque j'ai lu ce court témoignage, j'ai frémi intérieurement. Et ce matin encore, je ressens des frissons, ça me fait le même effet. La parole de Dieu que nous avons l'habitude, comme chrétiens évangéliques, d'avoir sous notre toit, et même parfois en plusieurs exemplaires, est-elle aussi précieuse à nos yeux, aussi précieuse que pour Dieu, ce jour-là, au point de la protéger du feu par une cloison qui l'a protégée de la destruction? Cette parole habitait dans cette ferme et a survécu à l'incendie. Cela m'interpelle. Est-ce que cela vous interpelle aussi? Est-ce que ça vous amène à réfléchir? Donc ce matin, pour poursuivre notre série autour de la parole, nous avons ce thème, la présence de la parole à tous les étages de la communauté. Philippe, fin septembre, nous a présenté cette parole comme une nourriture bienfaisante pour nos corps, nécessaire pour la vivacité de notre vie spirituelle, incontournable, riche de bienfaits pour nos âmes. Alors je vous propose pour ma part de lire un court passage de Colossiens afin de voir comment elle peut être l'eau bienfaisante qui s'immisce dans toute notre vie. Que la parole de Dieu réside parmi vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Donc, il s'agit de Colossiens 3, les versets 16-17. Nous regarderons d'abord dans quel contexte ces mots ont été adressés par Paul aux Colossiens, puis nous considérons de quelle façon cette parole réside parmi nous pour nous exhorter les uns les autres en la lisant ou la partageant, mais aussi par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Qu'est-ce qui a amené Paul à encourager les Colossiens de cette façon? Alors d'abord, il faut rappeler que Paul n'est pas à l'origine de la création de cette église. On suppose qu'elle est le fruit de son travail dans la région d'Éphèse. Donc si vous voyez Éphèse, c'est sur la côte, j'ai pas de pointeur, je ne peux pas vous montrer. Vous voyez là, ce qui est maintenant la Turquie, et Éphèse, c'est un peu au milieu, en bas, sur la côte, c'est entouré en rouge. Et Colosse, c'est complètement à droite, sous la Odyssée qui est aussi entourée en rouge. Est-ce que vous arrivez à voir, à situer ? Donc, il y a environ, je crois, 120 ou 150 km entre les deux villes. Donc, ce n'est pas Paul qui a créé cette église, et on suppose qu'elle est le fruit de son travail dans la région d'Éphèse, et qu'elle aurait été fondée par Épaphras, qui aurait rencontré, côtoyé Paul à Éphèse, avant de fonder l'église à Colosse, dont il était originaire. Si vous revenez dans Colossiens, au chapitre 1, le verset 17. Le verset 7, pardon. C'est Épaphras, notre cher ami et collaborateur, qui vous en a instruit. Il est un fidèle serviteur du Christ auprès de vous. Donc, on pense que c'est cet Épaphras qui est venu rejoindre Paul dans sa prison, ensuite, pour l'informer des difficultés survenues dans son église par la suite de la prédication d'une fausse doctrine. Et Paul écrit alors la lettre aux Colossiens, mais il écrit aussi une deuxième lettre, et c'est la lettre aux Éphésiens. Notre texte, lui, est dans l'autre, dans la lettre aux Colossiens. Alors, je ne vais pas vous exposer en détail la fausse doctrine, parce que je n'ai pas envie que vous la suiviez. Mais il faut savoir que c'est un mélange d'éléments judaïques avec des notions de philosophie grecque. Ça privait les chrétiens de leur liberté apportée par le sacrifice de Jésus sur la croix, et ça les enfermait dans le carcan du légalisme. Les gens avaient des idées très bizarres sur la perfection chrétienne qu'ils voyaient en termes de régime spécial, de jours saints, de culte des anges. Ils s'appuyaient sur la sagesse et les traditions humaines. En effet, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, le verset 8, Paul écrit « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fondent sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. » Mais finalement, est-ce qu'une telle mise en garde ne pourrait pas nous être adressée aujourd'hui ? Lorsque nous transmettons la parole de Dieu, est-ce que nous n'essayons pas d'user de sagesse purement humaine, de l'accompagner de nos traditions ? Accusant ainsi les autres de ne pas être de vrais chrétiens, parce qu'ils ne suivent pas ce que Dieu nous enseigne. Est-ce que nous ne déformons pas la parole, mettant ainsi en danger la foi de ceux qui nous écoutent ? Alors, pour ne pas vous mettre mal à l'aise en vous laissant penser que ça pourrait arriver chez nous, je vais vous citer deux exemples vécus sur le champ missionnaire. Vous comprendrez bien que je suis un peu... Je ris un peu en disant que ça ne pourrait pas arriver chez nous, parce qu'on sait bien qu'on peut être pris par une telle façon de faire. Alors, le champ missionnaire, vous le savez pour beaucoup, nous avons vécu, Hervé et moi, pendant 21 ans au Cameroun, et j'ai été aumônier pour les femmes dans l'église baptiste. Et dans cette église, comme dans la plupart des églises protestantes de ce pays, les fidèles ont des tenues particulières. Pour des jours particuliers. Donc là, la tenue des femmes, ça peut être intéressant, parce que quand les groupes de femmes de différentes dénominations se retrouvent, alors par exemple, elles célèbrent au mois de mars la journée œcuménique de prière des femmes chrétiennes. Eh bien, ça permet qu'on voit d'un seul coup d'œil quelle est l'Église qui participe à cette journée œcuménique. Parce que les baptistes ont cette tenue, les luthériennes ont une tenue, les adventistes, les catholiques, chacune a une tenue avec un motif différent. Et on voit vraiment toutes ces églises, on peut se réjouir d'être ensemble, parce qu'on voit de façon claire que toutes les églises sont ensemble. Ce n'est pas seulement des gens habillés qui se fondent dans la masse, mais on voit vraiment les églises qui sont là. Il y a aussi la tenue pour le dimanche de la Sainte-Cène, chaque mois, ou pour des occasions précises. Donc je portais cette tenue lorsque j'étais aumônier des femmes au Cameroun. Je vous l'accorde, c'est culturel et pas du tout biblique. Ainsi, ma sagesse humaine voulait que j'aille voir ces femmes de front en leur disant qu'elles étaient à côté de la plaque et adoptaient des attitudes incompatibles avec le texte biblique, parce qu'il fallait qu'on soit habillé comme ça, il fallait mettre des sous-vêtements blancs, enfin, il y avait des règlements, et des fois, ça apportait des petites histoires. Mais si je les abordais ainsi, c'était ma sagesse humaine qui parlait, ma culture qui se heurtait à la leur, parce que chez nous, il n'y a pas d'uniforme. Je ne le faisais pas pour mettre le texte biblique en avant. D'ailleurs, en discutant avec elle, j'ai compris que c'était des tenues simples, parce que comme ça, on ne voyait pas qui était riche et qui était pauvre. Et ça appliquait 1 Timothée 2,9, lorsque Paul dit aux femmes qu'elles ne se parent pas d'une coiffure recherchée, d'or, de perles ou de toilettes somptueuses. Alors, quelle vérité biblique est-ce que moi, je pouvais leur opposer ? J'ai des collègues missionnaires qui ont essayé de détourner les femmes de ces questions vestimentaires en leur disant que ce n'était pas biblique. Mais elles ont eu peu d'impact sur la vie spirituelle des femmes. Et elles ont même presque failli être à l'origine de divisions entre l'église locale et le groupe de femmes. Par contre, nous sommes plusieurs à avoir accepté de porter ces tenues ou à ne pas avoir abordé de discussion sur ce point, considérant que ce n'était pas l'objet de notre foi. Les femmes ont accepté que, pour les missionnaires, leur culture était différente, et ainsi nous avons pu avoir de nombreux partages très approfondis avec nos sœurs, les aider à grandir dans la foi. Et pour moi, cela m'a enseigné à ne pas me baser sur ma culture, ma sagesse, mes traditions, mais à regarder seulement la parole de Dieu. Je vous ai parlé de 2 exemples. Un autre exemple au Cameroun, ça tient à la distorsion du texte biblique. Des pasteurs du Nord Cameroun déclaraient à leurs fidèles « La Bible interdit de boire de l'alcool ». Alors ça allait tant que ces personnes qui recevaient cette parole ne pouvaient pas elles-mêmes lire la Bible. Mais au Cameroun, comme partout, l'école a fait des progrès, les gens ont appris à lire. Et ils ont même appris à lire la Bible dans leur propre langue grâce au travail de la Wycliffe. Si vous ne connaissez pas la Wycliffe, je pourrais vous expliquer, mais après le culte. Et donc, en lisant la Bible, ils n'ont pas trouvé un verset qui disait « il est interdit de boire de l'alcool ». Ça a semé le trouble. Et moi, j'ai une femme qui m'a posé la question en pleine étude biblique devant tout le monde. Où est le verset qui déclare ça ? Je ne le trouve pas. Donc, les pasteurs nous enseignent des choses fausses pour nous brimer, si ça n'y est pas. Et parce qu'en plus, parfois, je vois les pasteurs boire une bière. J'ai dû longuement discuter pour essayer de remettre de l'ordre dans tout cela. Alors, Éphésiens 5, 18 nous dit « Ne vous enivrez pas, c'est de la débauche ». Et donc, en expliquant que les pasteurs ne voulaient pas que les fidèles s'enivrent pour ne pas déplaire à Dieu, j'ai pu ainsi leur dire qu'il y avait quand même une recommandation dans la Bible qui concerne l'alcool. Et les pasteurs savent que chacun est lent et rebelle pour écouter. Alors, ils ont utilisé une formule un peu abusive pour être sûr d'être compris. Et finalement, les femmes ont terminé « Oui, tu as raison ». On ne veut pas toujours écouter, il vaut mieux interdire. Et le sujet a été clos. Moi, j'étais quand même pas très contente parce que je voyais que de tels abus de langage, d'imposer une loi à partir de la Bible, ça décourageait les croyants et la Bible n'était plus une eau vivifiante et fertile. La parole était utilisée comme un bâton de punition. Alors voilà des exemples qui nous montrent comment on peut se pointer sur des questions qui nous détournent de la foi ou transformer la parole de Dieu. Et pourtant, le verset que nous avons lu nous dit que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Alors j'ai cherché plusieurs traductions, plusieurs versions de la Bible pour comprendre comment sont traduits ces mots. J'ai trouvé que la parole de Christ habite en vous dans la seconde 21 et la nouvelle française courante. J'ai trouvé que la parole de Christ réside parmi vous dans la Summer 2015. La version avant, la Summer 2000, c'était réside au milieu de vous. Et ça nous ramène à la maison dont a parlé Philippe la dernière fois. Pour résider, pour habiter, il faut qu'il y ait une maison solide, établie sur une bonne fondation. Cette fondation, c'est la parole de Christ. On vient de parler de ne pas se baser sur notre sagesse et notre culture, de ne pas apporter de distorsion au texte biblique. C'est en refusant ces pratiques que nous sommes établis sur des bonnes bases, sur des bases solides. Malheureusement, il se trouve que certains choisissent d'habiter sans être dans la maison parfois. Ils ne sont prisonniers de rien, assujettis à rien. Mais, en contrepartie, est-ce que la parole habite en eux, au milieu d'eux et des autres ? Si nous choisissons la sédentarité plutôt que le nomadisme, que se passe-t-il ensuite dans les différents étages de la construction ? Pour habiter, il faut élever les murs de la maison. On utilise des pierres, des briques. Je ne vais pas vous refaire un cours de maçonnerie. Mais on est souvent comparé à ces pierres et ces briques vivantes qui constituent l'église. Et pour que cela tienne ensemble, il faut qu'il y ait du mortier. Je vous ai parlé de la parole comme de l'eau vivifiante. Et la parole de Dieu, la parole du Christ, est cette eau vivifiante. Alors le mortier en maçonnerie, ça sert à assembler des éléments entre eux et à répartir les charges. J'ai cherché sur Internet pour ne pas vous raconter de sottises, même si Hervé est ingénieur en bâtiment, il vaut mieux que devant lui je ne dise pas de sottises à ce sujet. Donc il s'agit d'un mélange de sable, d'eau et de liant tel que du ciment. Mais si vous mettez ensemble le ciment et le sable et vous essayez de faire tenir les pierres ou les briques entre elles, vous constaterez que ça ne marche pas. Alors, une recommandation que j'ai trouvée à ce sujet, c'est qu'il faut utiliser uniquement de l'eau propre. Cela évite toute impureté qui rendrait le mélange moins solide et moins efficace. Donc, si nous voulons laisser la parole habiter en nous, chez nous, au milieu de nous, il faut accepter que la maison et ses pièces soient bien construites. Nous pouvons voir le sable et le liant comme notre repentance et notre désir de suivre le Seigneur et nos bonnes actions. Mais sans l'eau vivifiante de la parole, tout cela tombe en miettes. Donc vous comprenez, la parole c'est la base, mais c'est aussi l'eau qui tient le mortier, qui consolide le tout. Avec cela, le bon mortier, la construction peut s'élever et la parole peut habiter à tous les étages. Je me suis demandé quels peuvent être les étages. Puis je me suis dit, finalement, il y a le CBJ, il y a la crèche, il y a les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, chacun dans des activités différentes. Mais ce que la parole qui habite en nous est, ce ne sont pas ces services, ces choses qu'on fait ou quoi. C'est notre état d'esprit, ce qui est dans notre cœur, notre attitude en permanence, comment nous comportons. L'eau vivifiante qui est dans cette bâtisse, qui grandit, permet aussi à chaque personne qui l'absorbe de grandir et de croître. Comme une plante qui a besoin d'eau pour vivre, chacun a besoin de boire à cette parole pour ne pas se dessécher et pour ne pas que ses feuilles jaunissent et tombent. Alors, on pourrait imaginer que cette bâtisse où chacun peut s'abreuver, c'est uniquement l'église où nous sommes ce matin. Ce bâtiment où nous nous réunissons. Mais nous savons bien qu'en tant qu'adultes, nous lisons aussi la Bible à la maison, dans notre rencontre personnelle avec Dieu. Mais après cela, qu'en est-il de notre partage avec nos enfants, avec notre conjoint ? J'ai cherché la définition du petit Robert pour le verbe résider. C'est être établi d'une manière habituelle. Si nous ne convoquons la parole de Dieu au milieu de nous que de façon occasionnelle, le dimanche matin au culte, comment est-ce qu'elle peut résider parmi nous ? Nos enfants reçoivent un excellent encadrement au club biblique jeunesse, au flambeau, dans des espaces dédiés. Mais est-ce qu'il en est de même dans leur environnement quotidien ? La maison que nous bâtissons tous ensemble avec les pierres vivantes que nous sommes dépasse le cadre du bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui. Est-ce que cette maison, elle est aussi vivante ? Est-ce que l'eau de la vie qu'elle contient peut s'étendre et s'immiscer partout dans toutes les formes de notre vie ? Lorsque la parole de Christ habite en nous, au milieu de nous, c'est aussi lorsque nous sommes ailleurs qu'à l'Église. Nous avons pourtant tellement tendance à faire de notre foi une question intime, privée, personnelle. Alors voici une nouvelle histoire qui m'a aussi interpellée quand je préparais ce message. Une histoire qui montre qu'il ne faut pas garder la parole de Dieu pour nous, qu'il faut accepter de la laisser partir loin de nous, un peu plus loin que de notre cercle de vie habituel. Nous avons si vite fait de la garder entre nous, de ne pas l'ébruiter, de peur qu'on nous juge, qu'on se moque de nous, de la persécution dans cette période de laïcité bizarre que nous vivons. Dieu, lui, veut que sa parole se répande partout et en tout lieu. Alors il trouve des moyens pour que ceux qui doivent l'entendre ou la lire soient atteints. Deux voyageurs dans un train traversant la Géorgie semblaient avoir une conversation animée. L'un des hommes découvrit que son interlocuteur était un pasteur. Le ton se durcit. Le pasteur sortit sa Bible et sa valise et en lut quelques fragments. Inutile. Chacun resta sur ses positions et un silence glacial s'installa dans le compartiment. Oups. Un moment après, comme le pasteur revenait des toilettes, l'autre refermait la fenêtre. La Bible avait disparu. Les deux hommes se regardèrent sans rien dire. Quelques mois plus tard, le pasteur reçut la visite d'un inconnu. « Je voudrais être baptisé, » demanda celui-ci. « À quelle église appartenez-vous ? » « Aucune. J'ai lu la Bible, elle m'a montré que j'étais un pécheur, j'ai appris à connaître le Dieu sauveur. » Méfiant, le pasteur l'interrogea. « Comment avez-vous obtenu une Bible dans ce pays ?» Je suis entrepreneur et je devais inspecter un bâtiment près de la ligne de chemin de fer. Un train passa et tout à coup un objet tomba à mes pieds. C'était une Bible. Avez-vous cette Bible avec vous ? Bien sûr, la voici. Le pasteur prit le livre dans ses mains et reconnut sa Bible. Ainsi, la parole s'était éloignée de lui physiquement, pas de son cœur. Mais Dieu avait permis, par le fait qu'elle soit ainsi répandue, que quelqu'un trouve le Seigneur. Après la Bible préservée des flammes, voici la Bible rescapée du train. Dieu a les yeux sur sa parole, afin qu'elle produise du fruit, qu'elle soit une source d'eau vive pour beaucoup. Alors, est-ce que vous voulez la garder pour vous, ou plutôt la partager à de nombreuses personnes ? Dieu peut le faire sans nous. Mais il souhaite tellement que nous aidions d'autres à éclore à la foi, puis grandir en lui, afin qu'il puisse résider au milieu de nous. Et comme j'aime bien les petites histoires, je ne résiste pas au plaisir de vous partager une troisième histoire, mais ça sera la seule, la dernière, ce matin. Elle nous montre comment Dieu veut que sa parole habite parmi nous, même chez les voleurs, les gens de mauvaise vie, ceux vers lesquels nous ne savons pas toujours nous tourner. C'était à une réunion de témoignages. Un homme se leva, tenant à la main un Nouveau Testament. « Mon histoire n'est pas ordinaire, » dit-il. « J'étais pickpocket. » Je vis un jour un homme ayant dans la poche de son pantalon une forme bien rebondie. « Une bourse bien garnie, » pensais-je. Et aussitôt, elle passa dans ma poche. Mais arrivé chez moi, je regardais. C'était un livre. De dépit, je le jetais dans un coin. Mais par la suite, par simple curiosité, je l'ouvris et en commençai la lecture. En peu de jours, je découvris en Christ mon Sauveur et mon Maître. Après avoir entendu ce témoignage, un colporteur de la société biblique qui était présent fut très intéressé. Et à l'issue du service, il demanda à voir le Nouveau Testament en question. C'était bien celui qu'il avait porté sur lui pendant des années et qu'il avait considéré comme perdu. Est-ce que nous considérons comme perdue la parole qui pourrait s'échapper loin de nous ? Il y en a qui prennent un verset qui n'existe pas vraiment, qu'il ne faut pas jeter de perles à des pourceaux. Et donc, je garde ma Bible bien propre, bien à l'abri de tout, pour, on ne sait jamais. Pourtant, ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est de nous instruire et de nous avertir les uns les autres. C'est aussi cela, laisser habiter la parole au milieu de nous. C'est l'annoncer clairement et à haute voix à tous. Dieu veut que sa parole vive au milieu de nous. C'est cela, résider et habiter. Ce qui est dommage, c'est qu'à notre époque, un pickpocket aura du mal à voler un évangile dans une poche de pantalon. Nous y avons tous un téléphone. Un téléphone qu'il aura du mal à débloquer sans notre mot de passe ou nos empreintes pour y lire la Bible que nous y avons téléchargée. Notre texte du jour nous encourage enfin à chanter à Dieu de tout notre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je l'ai noté dans le premier chant. Nous avons chanté « Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière ». Et c'est bien ce que le texte nous demande de faire. C'est vrai que la parole de Dieu est annoncée, vécue, véhiculée, proclamée aussi par des moyens artistiques. Ce petit texte que je vous ai mis avec cette jolie image, c'est artistique, ça nous parle, ça nous encourage. De même, le chant est du domaine de l'art lyrique. Des chantres officiaient déjà dans l'Ancien Testament. Le chant est un moyen donné par Dieu pour que nous puissions encore mieux mémoriser sa parole. Lorsque vous chantez quelque chose, comme les chants que nous avons chantés au culte ce matin, vous finissez par le fredonner en boucle. Et les paroles que vous fredonnez accompagnent toute votre journée. Parmi les chants que Dossel nous a proposés ce matin, il y en a sans doute un qui accompagnera plus particulièrement votre semaine, parce qu'il aura touché votre cœur par ses paroles et la mélodie qui les accompagne. Ça m'arrive souvent que toute la semaine, je rechante dans ma tête, sans m'en rendre compte, un des chants que nous avons eu au culte dimanche matin. C'est ainsi que la parole aussi habite parmi nous. Et donc c'est au-delà des murs de l'Église, c'est au-delà du seul culte du dimanche. Alors je pourrais développer encore toute une longue partie sur les chants, sur les effets bénéfiques dans notre vie, lorsque ce sont des chants à la gloire de Dieu, notre Créateur, et sur pourquoi nous chantons. Il y a plein de thématiques à développer sur la louange. Mais finalement, j'ai décidé de laisser le mot de la fin à nos jeunes qui sont absents ce matin. Beaucoup le savent, ils sont partis au rassemblement que la Fédération Baptiste organise tous les deux ans et qui s'appelle Connexion. Ils sont plus de 500 jeunes. Alors, en tant que membre du Conseil national, j'ai un privilège, c'est que j'ai déjà reçu les vidéos depuis hier pour voir comment ça se passe. Et je me suis dit, eh ben, ce matin, au culte, on va vivre Connexion avec eux. Donc, le texte de ce matin, je vous le rappelle, que la parole de Dieu réside parmi vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres et pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques, inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. je vais lire là parce que c'est trop loin, dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Donc ce matin, nous allons terminer en écoutant ces jeunes. Dieu nous demande de laisser sa parole habiter parmi nous, afin que nous puissions grandir comme de belles plantes qui orneront sa maison. Ces plantes sont nourries par cette parole qui est l'eau vivifiante qui les arrose. Elle contient encore en plus l'engrais nécessaire à la croissance que sont les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels. Elle peut ainsi aller nourrir d'autres, nos enfants, nos familles, nos connaissances, jusqu'à des personnes que nous ne penserions pas atteindre. Car Dieu lui-même permet que des pousses aillent au-delà de notre maison pour avertir ceux qui sont plus loin. Rappelez-vous de la Bible tombée du train ou du Nouveau Testament subtilisé par le pickpocket. Dieu veille sur cette parole afin qu'elle ne puisse disparaître et qu'elle demeure éternellement. Rappelez-vous de la Bible qui n'a pas brûlé dans l'incendie. Le feu n'a pas pu anéantir l'eau de la vie. Oui, cette parole demeure au milieu de nous, précieuse et vivante. Sachons la chérir. Et j'ai été touchée parce que dans un autre des chants, il y avait « Je chéris ta parole ». Et je me suis dit que là, c'était le petit clin d'œil de Dieu pour moi, pour dire « C'est vraiment ça que je voulais que tu dises ce matin. » Peut-être que je me trompe.